Bonjour Victoria.
Salut Thierry.
Toujours en forme?
Bah, toujours en forme, en super forme.
Même un
4
peu
jours
bronzé, hein?
un break, montagne, zéro wifi, déconnexion. J'ai même cru que c'était pas vrai l'histoire du coronavirus. J'ai presque failli oublier, quoi. Ça me semblait dingue. Ce qu'on vient de vivre ces dernières semaines, c'est assez fou, hein. Donc.
Un long week-end qui nous fait oublier les tracas du jour, mais on a dit on est en bonne santé, donc on est en live, donc on ne déroge pas à la règle. Et je vois déjà des likes arriver. Vous êtes géniaux, merci. Vous avez le droit de partager, vous avez le droit de liker, vous avez le droit de commenter, bien évidemment, et puis aussi de questionner notre invité qui nous attend sagement à l'arrière du studio. Et avant ça, eh bien on va donner nos trois petites infos. Ah, ça fait du bien de nous revoir, nous dit Anaïs. Ben, on t'embrasse. Voilà, déjà pas commencé que ce live fait déjà des émules, ça fait grand plaisir. Alors avant de commencer ce live, deux, trois petites infos pratiques. La toute première, eh bien on se voit du lundi au vendredi, c'est promis cette semaine. C'est presque le programme officiel naturel. On va faire une petite pause jeudi. Voilà, bah oui, nos agendas nous obligent un petit peu à faire avec. Et puis, par contre, eh bien, il y aura une nouveauté. On vous annoncera l'invité qui sera là, ici même, aussi dans notre studio, pour le même exercice que celui qui nous attend pour ce numéro. Avant toute chose, je balance ce visuel pour vous dire que le meilleur de la pub, c'est parti. Si vous ne l'aviez pas vu, hein, c'est en collaboration avec le meilleur de la pub que ces Comin Mag Live se tiennent. Vous avez peut-être vu passer l'info, mais vous avez le droit de soumettre vos projets jusqu'au 7 août. C'est pas parce qu'il y a toutes sortes de choses comme la crise du coronavirus que cet événement n'aura pas lieu, puisqu'effectivement, les inscriptions sont ouvertes. On a déjà vu passer des projets et l'événement qui a été repoussé se tiendra bien évidemment à la rentrée. Donc on compte sur vous, mais on vous le rappellera dans tous les Comin Mag Live. Allez, place à notre invité, Victoria. Faisons connaissance. Je sens qu'il s'impatiente. On l'entend déjà dans nos micros. De qui s'agit-il aujourd'hui, Victoria?
Aujourd'hui, c'est Édouard Gauthier, directeur général de l'agence Gauthier-Collette. Bonjour Édouard.
Bonjour Victoria, bonjour Thierry.
Bonjour Édouard, bienvenue à bord.
Merci.
Comment vas-tu Édouard? Comment ça va?
Eh ben, pas trop mal en cette période, et le même sentiment que toi, après 4 jours aussi en montagne, on a l'impression que le Covid est pas trop passé, avec des gens qui sont très décontractés, donc voilà, et puis ça fait du bien aussi de pouvoir en profiter.
C'est vrai que ça a l'air irréel. Mais franchement, on a vécu quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Mais c'est fou, hein, de se dire qu'on a été confinés comme ça. Alors, comment ça s'est passé pour ton agence? Ben, je pense que aussi du télétravail. Bon, pour les agences de communication, ce n'est pas forcément un problème de télétravail, mais quand même. Alors, raconte-nous ton expérience.
Bah exactement, ça a pu se mettre en place rapidement, ça s'est bien déroulé. Dès le début, on a pu envoyer un petit message à tous nos clients pour dire qu'on était opérationnel, qu'on était prêt à les accompagner pour traverser cette situation, de bien réfléchir avec eux sur comment communiquer en interne et auprès de leurs clients. Mais bah, puis, il y a eu beaucoup de conversations en fait avec tous nos clients et aussi d'une façon aussi franche que possible, parce que là, c'est la trésorerie qui a souffert. Beaucoup ont demandé des échéanciers de paiement. Voilà, donc finalement, notre chiffre d'affaires, nous, c'est maintenu. Il y a même eu des compétitions qui sont plutôt bien. Enfin, on a gagné, que ce soit auprès de clients, développement de portefeuille ou auprès de nouveaux clients. Mais voilà, c'est la trésorerie qui a pris un coup et on espère que tout le monde va en ressortir en bon état pour retrouver une situation stable.
Alors justement, cette période compliquée nous a obligés à travailler différemment. Est-ce que répondre à des pitchs, à des briefs, pitcher, proposer justement des stratégies, c'est un exercice auquel tu étais déjà acquis ou c'est une découverte? Parce que certaines agences qu'on a interviewées nous ont dit que c'est quand même méchamment différent de pas sentir le client en direct et puis de le faire au travers d'un Skype, d'un Zoom, c'est un peu plus dur comme exercice. Comment ça s'est passé de ton côté?
Très clairement, c'est différent, évidemment. Et je pense pas qu'on ait trop fait. Après, il arrive, nous, on a beaucoup de clients qui sont côté français, donc on est régulièrement en déplacement, mais quand même, dès que possible, on va faire des échanges via justement les différents outils de visioconférence, ce qui a permis qu'on ait l'habitude de vendre nos idées. Maintenant, Pour un nouveau client, là, ça change. Et c'est pas évident de bien comprendre, voilà, le ressenti. Et puis là, il y avait surtout un gros projet aussi pour un client chinois. Mais là, c'était pas que la vidéo qui faisait que les échanges sont pas toujours évidents en termes de compréhension.
Est-ce qu'au niveau de la perception, justement, entre tes clients français, alors je n'ai pas le chinois parce que visiblement ça doit être assez compliqué de comprendre, mais entre les clients français et les clients suisses, est-ce qu'il y avait une façon de réagir différente face à l'adversité? Parce que on dit toujours que sur le marché français, ben, les gens sont quand même, je veux dire, ils n'en sont pas à leur première crise, donc les gens ont peut-être plus l'habitude de choses plus instables, alors que sur le marché suisse, c'est vrai que ça faisait très longtemps qu'on n'avait
Non,
pas.
même sur le marché français, personne n'avait déjà connu cette situation qui était vraiment exceptionnelle et avec évidemment la difficulté d'absence de projection, savoir comment ça allait pouvoir évoluer. On avait quelques idées par rapport à ce qui se passait à l'international, mais vraiment c'était l'inconnu pour tout le monde. Ça, c'est une situation très compliquée pour tous les chefs d'entreprise. Nous, on a beaucoup de distributeurs. Voilà, à partir du moment où le point de vente, enfin, tous les points de vente doivent fermer, ils ne savent pas quand ils vont réouvrir. C'est difficile, ils cherchent à s'adapter et ce n'est pas l'État qui, au début, était en mesure de donner des informations sur une possible réouverture, reprise économique. Ça, c'était pareil des deux côtés, hein. Suisse et Français, il y a eu vraiment une première phase sur l'inconnu, reporter l'attention sur le digital. Certains de nos clients n'avaient pas pu avoir d'action, enfin d'activité même sur le digital, se demander par rapport au e-commerce s'ils pourraient poursuivre. Certains, c'est parce qu'ils étaient en zone de cluster et donc ils ont dû fermer les entrepôts logistiques dès le début, donc pas profiter d'une activité et du report d'achat sur le e-commerce. D'autres, c'était pour des questions d'éthique, de dire ils ne voulaient pas faire travailler leurs équipes dans les services logistiques en début de crise en tout cas, avant de voir que, voilà, selon certaines règles sanitaires, l'activité pouvait se poursuivre. Mais voilà, c'était vraiment les interrogations qu'on a eues des deux côtés au début. Et après, j'ai beaucoup apprécié du côté suisse la relation toujours de confiance. Enfin, on n'est pas fournisseur, on est partenaire, même si on a beaucoup, la plupart de nos clients depuis plus de 5 ans en moyenne, on a des relations de confiance. Mais côté suisse, c'est toujours, voilà, on est partenaire, on n'est pas que fournisseur. Et c'est extrêmement agréable et confortable dans une situation tendue.
Est-ce que vous avez fait de la communication pendant cette période sceptique et de la communication Covid pour
Ah oui, pour tous nos clients. C'était au début un message de crise, pourquoi c'était fermé. On a dû informer l'ensemble des clients via le digital et les réseaux sociaux, prendre des prises de parole en cultivant justement l'univers de marque et bien faire en sorte que l'identité de la marque s'exprime au travers de ces messages, d'expliquer quelle était la situation, en essayant d'être aussi transparent que possible auprès des clients et consommateurs. Et ensuite, ça a été, voilà, on va bientôt réouvrir. Quels sont les gestes barrières qu'on va mettre en place pour assurer une réouverture dans de bonnes conditions? Et on a eu aussi beaucoup de travail pour la communication auprès de l'interne, rassurer sur le management de l'entreprise, quelle est notre vision, comment est-ce qu'on va évoluer, qu'est-ce qu'on peut vous garantir sur notre volonté d'entreprise d'aller de l'avant en tant que marque. Voilà. Et si justement, s'il y a des plans à venir, enfin, quels sont les. Essayer d'être aussi transparent que possible, là aussi, c'est le mot clé depuis longtemps, mais je pense qu'il était encore plus dans cette période de crise d'expliquer aux consommateurs et à l'interne quelle est la position de l'entreprise et sa vision pour l'avenir. Et quand on ne sait pas, et ben, il faut dire aussi on ne sait pas.
Ah, c'est vrai. Et ça, c'est un des points clés, mais c'est très difficile aussi pour une entreprise de ne pas pouvoir. Quand c'est par rapport à ses collaborateurs, bon, en Suisse, peut-être certaines normes étaient très claires. Donc, on a quand même clair dans une certaine semi-confinement. Mais j'ai l'impression que ce point-là n'a jamais été relevé par d'autres agences de comment parler à l'interne. C'était pas, disons, ça. Je trouve intéressant que toi, tu aies eu des clients qui te demandaient de faire toute cette communication interne. On n'a pas eu d'autres agences qui nous ont parlé de ça. Comment ça se fait que vous avez ce type de relation? Ça, je trouve intéressant.
C'est le cas avec tous nos clients, en fait, dans notre approche de travail. On a vraiment une gestion globale de la communication de l'entreprise. Et aujourd'hui, en tout cas, nous, on est persuadés, ça fait partie de nos valeurs, donc c'est certainement une raison pour laquelle on est aussi mandaté sur ce sujet, de se dire que ce qu'on va partager avec l'interne en tant que marque va se refléter auprès des clients et des consommateurs. Ce qu'on cherche même, nous aussi, à s'appliquer, à savoir sur les règles de reprise, j'imagine que c'est une question qu'on va aborder ensuite, mais l'écoute voilà, auprès des équipes, ce qu'on peut faire facilement étant une petite équipe de 15 personnes et être sur une relation individuelle pour permettre à chacun de travailler dans de bonnes conditions, surtout sur des métiers passion tels que les nôtres, on a les mêmes visions pour tous nos clients. Quand on travaille sur une plateforme de marque, sur une identité, il faut avant tout que cette plateforme de marque soit portée par les collaborateurs. Donc la communication avec l'interne est pour nous essentielle. Voilà, on a l'habitude de le faire, que ça soit, alors on n'est pas sur de l'événementiel, on ne veut pas organiser les séminaires. Par contre, quels sont les messages qu'on va prendre à chaque séminaire tous les ans ou, là aussi, on en a plusieurs clients, y compris en Suisse, pour qui on est en train d'organiser. Donc justement, les séminaires ne sont pas possibles, donc des vidéos. Comment est-ce que la direction peut prendre la parole, donner sa vision, qu'est-ce qui va se passer? Et ça, c'est des choses qui sont attendues et appréciées par l'ensemble des collaborateurs.
Alors justement, comme In Mag Live, c'est aussi l'occasion de faire connaissance avec des agences. Si tu avais l'occasion de présenter Gauthier Colette en quelques mots, pour qu'on puisse mieux faire connaissance justement avec le type de client, et on n'est pas obligé de citer de marque, hein, je te rassure, qu'est-ce que tu nous dirais sur les valeurs et puis le profil exact de l'agence que tu représentes ici aujourd'hui?
Alors, on se définit comme agence créative en stratégie de marque, au sens où on réfléchit vraiment sur l'identité de toutes les marques sur lesquelles on collabore, même si une plateforme existe déjà et qu'il n'est pas nécessaire de la repenser entièrement. Il y a vraiment accompagner les dirigeants de l'entreprise et les personnes avec lesquelles on travaille pour vérifier si le discours est suffisamment lisible et différenciant sur le marché par rapport à la concurrence. Pour être compris, là aussi, hein, j'ai évoqué l'interne, qui ce sont les premiers ambassadeurs, puis par les consommateurs. On a beaucoup de marques de distributeurs, que ce soit beaucoup de grandes surfaces spécialisées, que ce soit pour les seniors, la puériculture, c'est assez divers et varié, de la mode, parce que historiquement, les fondateurs avaient beaucoup travaillé dans l'univers de la mode, donc on a toujours gardé des marques qui sont sur la mode, secteur qui souffre beaucoup en ce moment. Mais après, c'est très large, on touche aussi au phytosanitaire, beaucoup de mode, enfin de pardon, beauté, cosméto. On est volontairement sur des secteurs très variés. Et c'est ce qu'on explique, c'est que c'est quelque chose qu'on cherche à garder, dans le sens où on est agence conseil, et que l'expérience de certains marchés vient nourrir d'autres marchés. Et voilà, ça nous permet d'être force de proposition, avec à chaque fois la stratégie et la création au centre de notre travail et notre réflexion.
Et plusieurs marchés, donc plusieurs pays également.
Oui, alors on a toujours été vraiment agence frontalière au sens où on travaille pour beaucoup de clients français et suisses. Et après, c'est généralement des mandats de taille européenne. Ça peut être évidemment national, mais aussi les entreprises sont souvent de taille européenne, sauf exception pour des acteurs suisses qui travaillent beaucoup avec l'Asie. Et comme on parlait tout à l'heure, une marque de cosmétiques, où là on travaille directement avec ce client qui est chinois. Mais sinon, c'est quand même suisse, français, européen. Et de manière plus anecdotique, asiatique.
En tout cas, une des marques de ton agence a toujours été la qualité du visuel. C'est vrai que c'est vraiment un travail. Alors, c'est vrai, tout un travail de marque, mais aussi vraiment un travail visuel. Par rapport, pour revenir à toutes...
Merci, j'apprécie comme l'observation.
Il y a un travail vraiment... peut-être aussi parce que c'est un univers de la mode, c'est un univers de luxe, du cosmétique, on est dans quelque chose qui doit rester dans ce qu'on peut appeler la belle pub, et donc très visuel. Pour revenir à tous ces clients dans toute la distribution, cette pandémie, elle a permis de développer le e-commerce. On commence à voir dans des villes des petits magasins qui commencent à disparaître. Est-ce que dans les discussions que tu as avec tes clients aujourd'hui, quel est leur scénario? scénario de reprise? Est-ce qu'ils continuent, pour ceux qui ont pu alors utiliser le e-commerce, est-ce qu'ils pensent plutôt partir dans cette direction et puis réduire leur visibilité
En
en réel?
présentiel.
Voilà. Ou est-ce que tu penses que quand même le magasin doit rester la pierre angulaire du commerce?
Alors là, je m'appuie plus sur le retour de mes clients que sur une analyse personnelle, mais eux, alors, je ne dirais pas que la boutique est la pierre angulaire, mais en aucun cas, ils envisagent de fermer des points de vente de façon à privilégier le digital. S'ils sont amenés à fermer des points de vente, ça sera soit par obligation, soit pour aller faire des points de vente plus adaptés. On voit par exemple un réinvestissement des centres-villes. Ça, c'est une tendance qui a été amorcée il y a plusieurs années, qui est déconnectée du Covid, avec voilà, même Ikea, quand même, qui est un symbole, hein, qui maintenant fait des showrooms de centres-villes. Voilà, c'est cette évolution qui touche beaucoup d'acteurs, justement, des grandes surfaces spécialisées, qui ont surtout des gros volumes, donc avec des points de logistique en dehors des centres-villes et des points showroom qui s'appuient sur des outils digitaux pour présenter un grand catalogue produit en magasin. Ça, c'est le marché comme il évolue sur un peu sur le moyen long terme. Et puis aujourd'hui, ben, ça a été un accélérateur, tout le monde l'a dit. Donc voilà, c'est une banalité. Accélérateur des transformations digitales, de la même façon que pour nous aussi, avec le visio, accélérateur du travail à distance. Mais tous les acteurs pour qui on travaille aujourd'hui souhaitent conserver vraiment la vente et à l'inverse, puisque la relation consommateur est extrêmement forte, on cherche à la conserver sur un contact permanent au travers des outils, des réseaux sociaux. Mais le vrai contact physique, on voit que tout le monde avait hâte de sortir de chez soi et d'aller rencontrer des gens, même relation avec les marques. C'est très bien d'avoir un contact suivi via les réseaux sociaux, mais être au contact de votre, enfin voilà, d'un vendeur et éventuellement vous connaissez, mais en tout cas vraiment être dans une interaction plus forte et physique avec la marque reste quelque chose d'important et ça c'est partagé par l'ensemble des marques pour lesquelles on travaille.
Bon, imaginez par rapport à la mode que les gens aient peur, tu vois, d'aller essayer des habits. C'est quand même quelque chose que tu touches quand tu vois toutes les explications que doivent faire aujourd'hui les Seychelles où elles nettoient les habits. Enfin, ça a l'air très très compliqué. Est-ce que ça, c'est pas un secteur qui peut être encore plus touché que les autres?
Oui, très clairement, et ils l'ont été. C'est pour ça que on les accompagne aussi pour partager ces messages, bien expliquer les règles qui sont mises en place. Ensuite, évidemment, ça dépendra beaucoup de combien de temps on devra vivre avec cette épidémie. Est-ce que d'autres épidémies pourraient exister? Présenter aussi la capacité de résilience et d'adaptation de ces chaînes, leur capacité de trouver des solutions et de montrer, de faire preuve que finalement, malgré la crise, il n'y a pas de plus de soucis et de transmission en fait de la pandémie en point de vente. Donc voilà, montrer qu'ils ont des outils qui tiennent la route. Et ensuite, ils tablent sur une reprise petit à petit, en tout cas dans le secteur de la mode qui est le plus touché jusqu'à la fin de l'année. Voilà, les chiffres un peu qu'ils évoquent, c'est moins 15% par rapport à N-1 sur le dernier trimestre. Donc voilà, avec des chiffres qui étaient de moins 40 à moins 60 sur le deuxième trimestre qui a été le plus touché. Donc voilà, c'est vraiment une reprise qui se fait petit à petit, qui aura vraiment lieu l'année prochaine, mais avec des tendances intéressantes. Ça fonctionne. Pardon, il y a eu un petit.
Ça marche, ça marche.
Pardon, côté Suisse, ce qui nous était dit, c'était que le trafic actuellement en centres commerciaux a diminué de 30 à 40%. Par contre, le panier moyen, lui, a augmenté de 20 à 30%. Je ne sais pas si c'est des chiffres qui avaient déjà été partagés, que je n'avais pas forcément entendu dans le live. Et ça, c'était confirmé sur plusieurs centres commerciaux. Donc voilà, par contre, les personnes actuellement augmentent le panier moyen, même s'il y a moins de trafic. Ce sont des gens qui sont motivés, qui viennent en magasin avec une envie d'acheter, éventuellement par rapport aux économies qu'ils ont pu faire sur les mois passés, les semaines passées.
Voilà, j'ai un chat dans la gorge juste au moment de poser la question. On assiste au sein des PME, des petits commerces, on l'a vu par plusieurs exemples ici dans Comme in Mag Live, que beaucoup, beaucoup ont appris quelque chose par rapport à la mise en ligne, au numérique, à l'usage de ces outils. Est-ce que c'est cet apprentissage le seul apanage des plus petits, des plus modestes, ou est-ce que les grandes marques, les distributeurs auxquels tu te retrouves à collaborer avec, ont aussi appris quelque chose, ont reconsidéré l'approche de leur communication versus le traditionnel et le numérique? Alors je sais que pour la plupart, je pense qu'ils sont aguerris déjà à l'exercice d'utiliser tout ça, mais est-ce qu'on est allé plus loin? Est-ce qu'on a une sorte de sensibilisation exacerbée qui s'est créée à la suite de cette crise?
J'ai l'impression qu'ils sont plutôt restés sur les outils dont ils avaient une certaine maîtrise plutôt que d'essayer de nouvelles choses en cette période. Voilà, il y avait déjà beaucoup de choses un peu instables et incertaines. Donc, par rapport aux outils utilisés, pour la plupart, ils ont préféré utiliser les outils qu'ils connaissaient, dont ils étaient à peu près sûrs. Maintenant, enfin, je pense qu'ils ont effectivement, comme tous, comme les PME, été obligés d'être confrontés à nouveaux outils, travailler à distance. Et voilà, moi, ce qui me semble intéressant, c'est aussi l'écoute des salariés. Et enfin, quand on a des enfants à l'école et qu'on ne peut pas partir, il y a eu plein d'aides qui ont été mises en place pour ça. Mais l'entreprise était obligée de s'adapter. Et je pense que ça, c'est. La capacité d'écoute des entreprises aux salariés a été très intéressante. Mais voilà, approche personnelle.
Donc maintenant, on parle de reprise. Alors, quelles sont les stratégies de reprise que tu as commencé à mettre en place pour ces marques? Tu as parlé de résilience, je pense que c'est intéressant. C'est vrai que dans la résilience, ben voilà, on essaie d'oublier un peu le passé et aller de l'avant. Est-ce que ça va être sous la forme de publicité classique ou plus de réseaux sociaux? Ou comment ils vont. Qu'est-ce que vous proposez
Alors, la résilience, justement, c'est vraiment la capacité de s'adapter à une situation. Donc, ce n'est pas du tout faire comme si de rien n'était et oublier ce qui s'est passé. Et à l'inverse, hein, toutes les études, enfin, tous les rapports qui sont sortis ces dernières semaines montrent bien que les consommateurs attendent des marques qu'elles communiquent sur la situation réelle, enfin, voilà, les problématiques auxquelles sont confrontés les gens. Donc, toutes les créations sur lesquelles on travaille pour nos clients intègre cette existence d'une situation. Voilà, l'état d'esprit n'est pas le même qu'avant la crise. On essaie, oui, d'avoir un discours positif, mais certainement pas de faire comme si de rien n'était. Et aussi, quand on doit parler de prix, enfin, voilà, vraiment faire de la promo, hein, ce qui est quand même aussi une partie essentielle de notre métier, ben, il ne faut pas la faire. Voilà, s'il faut vendre pour vendre, en ce moment, c'est un message qui passe pas bien. Et il faut qu'on dresse un contexte. Et si c'est de façon au moins implicite par les visuels, etc. Voilà. En tout cas, il doit y avoir quelque chose. Les consommateurs, pour l'instant, les études et les réactions aux pubs qu'on peut faire, on voit bien qu'ils sont en attente vraiment d'une mise en contexte et d'une prise en considération de la situation traversée.
Certaines agences évoquaient effectivement l'aspect promo en laissant entendre que finalement ce n'était pas un bon moment. Enfin, si la reprise c'était principalement de la promo, ce n'était pas très intéressant ni intellectuellement ni financièrement pour les agences parce que les campagnes n'allaient pas être aussi importantes. Alors, est-ce que tu as beaucoup de campagnes qui ont été complètement arrêtées et qui vont reprendre ou finalement, comme tu l'as dit aussi, j'ai pu comprendre, bah, plus ou moins, tu as toujours pu faire quelque chose. Mais il y avait des grandes campagnes qui ont été complètement arrêtées.
Non, on n'a pas eu de grandes campagnes arrêtées. Nous, on a eu un seul client qui était dans le tourisme qui, dès le début de la crise, nous a dit que là, il n'allait pas bien et qu'il fallait qu'il arrête tout. Voilà, c'est le tourisme qui a vraiment pris un gros coup et voilà, avec les répercussions évidentes. Les autres ont poursuivi. Bon, ouais, évidemment, la mode avait enfin, voilà, on a plusieurs projets plutôt pour la fin d'année, donc pas en cours, qui sont en stand-by pour voir à quelle vitesse la reprise peut avoir lieu. Donc forcément, ça nous touche aussi par rapport au projet qui a été en cours. Mais sinon, dans les campagnes, enfin, on a plusieurs aussi. Là, quand même, on est en train d'organiser justement de voir avec les équipes de production comment faire en termes d'achat d'art, campagne télé et campagne d'affichage qui vont avoir lieu. Donc il y a eu des décalages. Parce que de toute façon, on ne pouvait pas filmer pour la. Enfin, sauf et certains qui l'ont fait, et pour certains très bien fait quand même dans la situation de confinement. Mais voilà, par rapport aux images qu'on cherche, nous, on a prévu plutôt de décaler nos prises de vue sur août-septembre en équipe réduite.
Et donc, pour certains secteurs, on voit que la vague du printemps était complètement zappée parce qu'il y avait pas, ou il y avait du matériel qui n'était pas adéquat, ou il n'y avait pas de matériel.
Exactement.
Voilà.
On l'a dit dans un Comin Mag Live, la Chine reprend de plus belle ses bons réflexes de consommation. Alors, est-ce que c'est des bons, des mauvais? Ça, c'est autre chose. On voit aussi que la montée de la pollution reprend de plus belle et on dépasse même les seuils constatés l'année passée. Mais ça, c'est une autre histoire. Avec le regard que tu as justement sur l'Asie, est-ce que tu peux confirmer ce constat du consommateur qui se rue sur des produits de luxe? Alors, je pense effectivement voilà, est-ce que c'est un fait avéré de voir que par frustration, ce public, ces consommateurs se ruent sur de tels produits après un confinement qui se libère?
Alors, je ne suis pas spécialiste de l'Asie, donc je ne serai pas en mesure de répondre. Je n'ai pas suffisamment d'informations sur la consommation. Le seul point, c'était nous, nos clients, qui nous informaient que, eux, les usines tournent, ils ont beaucoup de projets. Mais voilà, ça, je n'ai pas plus d'infos que ça, si ce n'est qu'il n'y a plus de problème de confinement pour eux, en tout cas, les gens avec qui on travaille à Beijing. Et qu'ils y vont à fond.
Je pense que ce sera une question qu'on te reposera dans quelques mois pour voir si le constat est transposable ici, en Suisse, en Europe, en général.
Alors, une petite question en tant que chef d'entreprise. Toi, comment est-ce que tu as vécu cette période? Je sais que tu as un passé dans l'humanitaire. Donc, est-ce que tu avais vécu déjà une chose aussi forte que ça, ou c'est le plus fort que tu as eu à vivre jusqu'à maintenant, d'avoir à gérer prise par un temps aussi assez étonnant?
Alors, il est évident qu'en comparaison avec des projets humanitaires, moi j'étais spécialisé sur les projets enfants des rues, mais je travaillais pendant longtemps en Afghanistan. La situation était assez facile en Suisse. voilà, c'est pas comparable, mais ce sont vraies deux choses qui n'ont rien à voir quand on voit des personnes qui sont en détresse immédiate par rapport là à des situations où la détresse peut être réelle, mais sur le plus long terme. On va voir combien d'entreprises vont souffrir de cette crise. On peut être assez pessimiste sur la santé économique de beaucoup de secteurs. Donc voilà, je ne fais pas la comparaison, ne passez pas la même situation. Par contre, il est certain que moi, ça m'a appris aussi à conserver un certain calme et une prise de recul par rapport à la situation et d'échanger rapidement avec les équipes, y compris mettre en place une ligne. Enfin, on avait voilà, un groupe WhatsApp urgence Covid. Si jamais quelqu'un était malade ou quoi, qu'il fallait transmettre l'information, des informations importantes, voilà, des réflexes qui sont revenus assez rapidement dans une situation qui était quand même très atypique.
Alors, je sais que c'est une question qu'on pose à toutes les agences. On le sait, pour la partie créative, créatrice, c'est un peu compliqué de faire ça à distance, mais est-ce qu'il y aura des petites habitudes qui vont rester? Le télétravail, pas besoin de prendre la voiture ou le train aux mêmes heures, de se déplacer. Est-ce que c'est des choses qui vont être peut-être repensées chez Gauthier Collect?
Oui, absolument. J'ai été le premier à pas être forcément à l'aise, mais enfin, certainement en tant que chef d'entreprise, je me dirais, j'ai besoin d'avoir les équipes présentes et non pas pour vérifier qu'elles travaillent, mais mon souci était plutôt par rapport à la culture d'entreprise, le fait de partager, échanger, et même si chacun a dit assez rapidement la volonté de voir se retrouver et de partager, il est évident que le travail à distance est très bien passé, avec surtout encore une fois sur ces métiers de passion une auto-responsabilisation, et chacun voilà, à partir du moment où les plannings sont faits, chacun sait ce qu'il a à faire et le fait, voilà, on est dans l'échange, on a beaucoup utilisé les outils visio, des points quotidiens qui permettaient d'échanger et de vérifier voilà, que tout le monde restait bien dans le bateau, et ça a été très efficace. Donc oui, certainement ça va avoir un impact, on commence déjà à en discuter, de voir quelles sont les attentes de chacun.
On
Ah
pourrait
non,
faire,
ça c'est.
Victoria, un spécial truc et astuce des agences
Ouais.
dans quelques semaines, dans quelques mois.
Oui,
On en
surtout
apprend tous
bien
les
gérer
jours, hein.
l'agence, enfin bien l'aménager, puis pas très longtemps, ça fait quoi? Vous êtes à Certoux depuis combien de temps aujourd'hui?
Certes, c'est 3 ans.
Voilà. Donc maintenant vous étiez dans vos murs, c'est clair que voilà, ben je pense que pour certaines agences aussi qui avaient envisagé ben, de peut-être de s'agrandir ou d'avoir un espace, ça change aussi la donne de se dire qu'on peut aussi travailler à distance, quoi. Et puis travailler d'une manière différente, quoi. Donc voilà. Bah écoute, Edouard, ça a été vraiment très sympathique de t'avoir. Et puis peut-être juste pour finir, alors sur quelle campagne es-tu en train de travailler aujourd'hui?
Alors là, je suis en vacances cette semaine. J'essaie de ne rien faire, si ce n'est ce
On
live.
l'oblige à travailler un lundi
Avec
après-midi.
plaisir, et c'est pour ça qu'on a vraiment un travail. Mais sinon, là, bah, on a notre campagne pour nos amis chinois qui se prépare. Et puis, bah, toujours de beaux projets pour Opéra et Laura Star. C'est voilà, deux clients à qui c'est très agréable de travailler. Et on a pas mal de choses en cours avec eux.
On ne manquera pas de revenir vers toi pour continuer, puisque comme In Mag Live, c'est pas terminé, on en prend la place, on la garde, et ça sera l'occasion justement à toutes les agences, hein, comme celle d'aujourd'hui, eh bien de ben, revenir sur des projets en cours, sur de l'actu. C'est fait pour ça. Merci beaucoup, Edouard, pour ce temps partagé. On te remercie grandement d'avoir pris du temps sur tes
Ben,
vacances
merci à
pour
vous.
ce live. Et puis, on va se dire au revoir pour que tu puisses vaquer à d'autres occupations. À très bientôt,
Merci
Edouard.
Victoria, merci Thierry, à bientôt.
Merci.
Il est temps de dire au revoir, Victoria, mais on a une grande nouvelle. On est capable d'annoncer la prochaine invitée, puisqu'il s'agit d'une femme en plus.
On était toujours capable, mais on ne le faisait pas. Donc, nous, on a décidé qu'on allait le faire, qu'on allait toujours annoncer la personne le jour d'après, notre invitée. Donc, ce sera Caroline Muller de l'agence MAP. Et là, on passera de Genève au canton de Vaud. Voilà,
Et
toute
avant de se
l'histoire.
dire au revoir, on vous remet encore un petit coup le visuel du meilleur de la pub. Hein. Inscription au meilleur de la pub jusqu'au 7 août. Il n'y a pas de raison de ne pas vous le rappeler, puisqu'effectivement, cet événement aura lieu, puisqu'en septembre, tout ira beaucoup mieux. En tout cas, on fait tout pour ça.
On
Victoria,
fait de quoi?
on se dit qu'on se voit demain. Hein. Demain, 15 h, même endroit.
Allez, à demain.
Allez, portez-vous bien. À demain.